Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés du média suivant. La presse. Au programme, ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est inoffensif. L'ère du faux. Et l'intelligence artificielle va changer le travail. Bonne écoute.
Ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est inoffensif. Un texte de Mélissa Cadra, paru le 18 juin 2023 dans La Presse. Une nouvelle étude met en garde contre les algues clamates contenues dans certains suppléments alimentaires. Les suppléments alimentaires à base d'algues clamates peuvent poser un risque important pour la santé, prévient une nouvelle étude menée par un chercheur québécois. Ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est inoffensif, souligne le chercheur en chimie environnementale à l'Université de Montréal, Sébastien Sauvé, auteur de l'étude parue il y a quelques jours dans la revue Algal Research. Les capsules d'algues clamates sont composées d'algues bleu-vert. Il existe toute une gamme de différents suppléments alimentaires à base d'algues bleu-vert sur le marché. La plus connue, la spiruline, est abondamment ajoutée aux smoothies et aux boules d'énergie. Ces suppléments sont largement consommés en raison de leur haute teneur en protéines, en acides aminés, en vitamines et en minéraux. Contrairement à la croyance populaire, les cyanobactéries, aussi appelées algues bleues ou algues bleu-vert, ne sont pas des algues. Ce sont plutôt des bactéries qui contiennent de la chlorophylle, d'où leur coloration verte. Les mêmes bactéries qui forment des fleurs d'eau dans les lacs et qui causent bien des désagréments aux plaisanciers et aux baigneurs durant la saison estivale. Il est connu depuis quelques années que les suppléments alimentaires à base de cyanobactéries peuvent contenir des cyanotoxines, explique le chercheur qui a voulu confirmer cette hypothèse. Les cyanotoxines sont des toxines produites par certaines espèces de cyanobactéries qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé humaine en cas d'ingestion. Parmi ces effets, on compte notamment des douleurs abdominales, des maux de tête, des diarrhées et des vomissements. Dans les cas plus sévères, on peut observer des hémorragies au niveau du foie qui peuvent s'avérer mortelles. L'équipe de Sébastien Sauvé a évalué la présence de plusieurs toxines dans 37 types de suppléments alimentaires vendus en Amérique du Nord en 2021. Ces produits ont été achetés principalement sur les sites canadiens et américains d'Amazon. La majorité de ces produits, y compris la spiruline, contiennent peu ou pas de cyanotoxines. Mais la grande coupable, selon l'étude, c'est Afanisomenon floss aquae, aussi appelée algue clamate. La différence entre les deux, c'est que l'algue clamate est récoltée directement dans le lac Klamath, en Oregon, alors que la spiruline est cultivée dans des bassins artificiels à des fins de commercialisation. C'est plus difficile d'exercer un contrôle de qualité lorsqu'on ramasse des algues bleu-vert en milieu naturel, précise Sébastien Sauvé. la probabilité de récolter accidentellement d'autres espèces, dont des espèces qui produisent des cyanotoxines, est plus élevée. C'est la dose qui fait le poison. Les cyanotoxines, le plus souvent détectées dans les milieux naturels, sont appelées microcystines. Sans surprise, le supplément qui contenait le plus de microcystines était un produit à base d'algues clamates. Et la presque totalité des suppléments contaminés était composée de cette dernière. Premier hic, deux des produits analysés par Sébastien Sauvé dépassaient les critères de qualité pour l'eau potable en matière de microcystines de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Le second problème, c'est que la réglementation des suppléments naturels flotte dans une zone grise. La mise en marché des suppléments alimentaires est permise, mais il n'y a pas de processus systématique d'approbation, déplore Sébastien Sauvé. En d'autres termes, Santé Canada ne procède pas à l'homologation de tous les suppléments alimentaires. Ceux qui sont homologués comportent un numéro de produit naturel, NPN, de 8 chiffres sur l'étiquette. Dans le cas des suppléments à base de cyanobactéries, l'innocuité des produits tient compte de la concentration de cyanotoxines. Parallèlement, chaque entreprise est responsable d'effectuer les analyses de contrôle de qualité nécessaires. Est-ce que les fournisseurs ont bien fait leur devoir pour s'assurer que tout est conforme? C'est cette question qui a motivé Sébastien Sauvé à procéder à la détection des cyanotoxines dans les suppléments alimentaires. À mon sens, il faudrait au moins s'assurer que les critères pour l'eau potable sont respectés, dit Sébastien Sauvé, chercheur en chimie environnementale. Santé Canada a préféré ne pas se prononcer sur les résultats de l'étude de Sébastien Sauvé. En as-tu vraiment besoin? Mais est-ce vraiment pertinent de consommer des suppléments alimentaires à base d'algues bleu-vert? Non, il n'est pas nécessaire d'en prendre, selon Vanessa Daigle, nutritionniste diététiste. Il est beaucoup plus approprié de bien manger au quotidien, de s'assurer d'avoir une alimentation riche en végétaux. Si on veut absolument en consommer, mieux vaut préconiser les produits à base de spiruline ou de chlorelle, lesquels sont cultivés en milieu contrôlé, selon Sébastien Sauvé. Il faut faire attention aux suppléments qui proviennent du lac Klamath, précise-t-il. C'était « Ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est inoffensif ». Un texte de Mélissa Cadra, paru le 18 juin 2023 dans La Presse. L'ère du faux. Un texte de Francky Bernèche, paru le 12 juin 2023 dans La Presse. Aujourd'hui, plusieurs événements convergent vers une réalité qui remet en question notre compréhension d'un monde sensé et prévisible. L'intelligence artificielle copie impunément des artistes connus sans que personne ne s'en aperçoive et permet à un étudiant novice de devenir soudain un grand érudit de la littérature. Et que dire de Donald Trump, qui revient en force en récoltant de plus en plus de sympathie chez les électeurs, même s'il vient d'être accusé d'avoir mis en danger la sécurité nationale des États-Unis. La question ici est de savoir pourquoi nous avons cette propension à nous laisser berner par de fausses réalités qui pourraient être facilement contrées par une analyse critique reposant sur les faits. La réalité virtuelle. Cette tendance à adhérer à de fausses réalités a été, en partie, favorisée par cette nouvelle ère virtuelle au tournant du 21e siècle. Or, dans le monde virtuel, la réalité devient ce que l'on pense. Ainsi, la pensée, le désir et l'imagination deviennent la réalité pour de nombreuses personnes. Je me sens être un chat, je suis donc un chat. Phénomène des Furries. En fait, sur le plan psychologique, le monde virtuel revêt de nombreux avantages pour les individus vivant des difficultés particulières. Les faits sont souvent redoutés puisqu'ils jouent le rôle du rabat-joie devant toutes les possibilités apaisantes qu'offre le monde de l'imagination. On observe ce phénomène sur le plan clinique avec des personnes qui justifient leurs pensées anxieuses, voire déconnectées de la réalité, en disant « Bien voyons, ça doit être vrai ce que j'imagine. Regarde dans quel état émotif cela me place. » Ou « Ma femme doit assurément me tromper, avoir la peur qui m'habite lorsqu'elle s'absente. » C'est comme si notre état interne, pensée, émotion, justifiait à lui seul la réalité. Mais pourquoi est-ce ainsi? L'éducation parentale. On observe que les faits sont souvent mis de côté, étant donné que nous sommes de plus en plus égocentriques. Exemple, ce n'est que ma perception de la réalité qui a de la valeur. Nous savons que l'égocentrisme est en partie favorisé par l'éducation des parents qui imposent peu de cadres à leurs jeunes enfants. Les parents d'aujourd'hui, qui ont de moins en moins d'enfants, n'osent pas imposer de règles strictes susceptibles de compromettre leur lien avec l'enfant. Toutefois, l'enfant qui se développe dans ce contexte accuse souvent des problèmes avec les cadres qu'impose la réalité lorsqu'il devient adulte. Comme il n'a pas appris à œuvrer dans une structure où la réalité est clairement définie par les faits définis par autrui, exemple, tu vas te coucher car tu as mal agi. L'enfant développe plus tard une grande anxiété lorsqu'il est contraint à un encadrement de la réalité. Pour lui, le virtuel devient donc apaisant. À l'âge adulte, toutefois, la pensée virtuelle constitue un certain risque de dérive, car elle affaiblit la pensée critique et prédispose à la manipulation et à l'endoctrinement. Trump s'est positionné comme le défenseur des pauvres, et c'est tout ce qui comptait aux yeux de ses électeurs. Dans les faits, il utilise tous les stratagèmes pour ne pas payer d'impôts, ce qui a un effet direct sur l'appauvrissement de ses électeurs. Mais who cares? Il est donc important de réaliser que la réalité ne prend de véritable sens que par les faits qui la composent. Soyons vigilants, apprenons à voir la réalité et cessons d'adhérer aveuglément à des réalités alternatives qui ne servent qu'à maintenir un frein à notre développement personnel et à l'humanisation de nos structures de vie. C'était « L'ère du faux », un texte de Frankie Bernèche, paru le 12 juin 2023 dans La Presse. L'intelligence artificielle va changer le travail, mais comment? Un texte de Sarah Kessler, paru le 13 juin 2023 dans La Presse. En 2013, des chercheurs de l'Université d'Oxford ont publié des chiffres surprenants sur l'avenir du travail. Ils estimaient que 47 % des emplois américains étaient menacés d'automatisation dans un nombre d'années non précisées, peut-être une ou deux décennies. 10 ans plus tard, le taux de chômage dans le pays a atteint un niveau historiquement bas. Le tsunami de titres sinistres de l'époque, comme « Les riches et leurs robots » sont sur le point de faire disparaître la moitié des emplois dans le monde, semble tout à fait erroné. Mais les auteurs de l'étude affirment qu'ils n'avaient pas l'intention de suggérer que l'apocalypse était proche. Ils essayaient plutôt de décrire ce dont la technologie était capable. Il s'agissait de la première tentative de ce qui est devenu une expérience de pensée à long terme avec des groupes de réflexion, des groupes de recherche d'entreprise et des économistes qui publient article après article pour déterminer dans quelle mesure le travail est affecté par ou exposé à la technologie. En d'autres termes, si le coût des outils n'entrait pas en ligne de compte et que le seul objectif était d'automatiser autant que possible le travail humain, quelle quantité de travail la technologie pourrait-elle prendre en charge? À l'époque où les chercheurs d'Oxford, Carl Benedict Frey et Michael A. Osborne, menaient leur étude, IBM Watson, un système de réponse aux questions alimenté par l'intelligence artificielle, IA, venait de choquer le monde en remportant le jeu Jeopardy. Des versions d'essais de véhicules autonomes circulaient pour la première fois sur les routes. Aujourd'hui, une nouvelle vague d'études suit l'essor des outils qui utilisent l'IA générative. En mars 2023, Goldman Sachs a estimé que la technologie sous-jacente aux outils d'IA populaires comme DALL-E et ChatGPT pourrait automatiser l'équivalent de 300 millions d'emplois à temps plein. Des chercheurs d'OpenAI, le concepteur de ces outils, et de l'Université de Pennsylvanie ont constaté que 80 % de la main-d'œuvre américaine pourrait voir un effet sur au moins 10 % de ses tâches. L'incertitude est énorme, a indiqué David Autor, professeur d'économie au Massachusetts Institute of Technology, MIT, qui étudie les changements technologiques et le marché du travail depuis plus de 20 ans. Et les gens veulent apporter ces réponses. Mais que signifie exactement l'affirmation selon laquelle, par exemple, l'équivalent de 300 millions d'emplois à temps plein pourrait être affecté par l'intelligence artificielle? Cela dépend, selon M. Autor. Affecter peut signifier améliorer, aggravé, disparu, doublé. Le fait que la technologie tende à automatiser des tâches et non des professions entières est un facteur de complication. En 2016, par exemple, le pionnier de l'intelligence artificielle, Geoffrey Hinton, a étudié une nouvelle technologie d'apprentissage profond capable de lire des images médicales. Il a conclu que, si vous travaillez comme radiologue, vous êtes comme le coyote qui a déjà franchi le bord de la falaise, mais qui n'a pas encore regardé en bas. Il prévoyait 5 ans, voire 10 ans, avant que les algorithmes ne fassent mieux que les humains. Ce qu'il a probablement oublié, c'est que la lecture des images n'est qu'une des nombreuses tâches, 30 selon le gouvernement américain, des radiologues. Il s'occupe également de s'entretenir avec des professionnels de la santé et de donner des conseils. Aujourd'hui, certains professionnels du secteur s'inquiètent d'une pénurie imminente de radiologues. Et M. Hinton est depuis devenu un critique public virulent de cette même technologie qu'il a contribué à créer. Vous écoutez? L'intelligence artificielle va changer le travail. Mais comment? Un texte de Sarah Kessler, paru le 13 juin 2023 dans La Presse. Frey et Osborne ont calculé leur chiffre de 47 % en partie en demandant à des experts en technologie d'évaluer la possibilité d'automatiser des professions entières comme télévendeur ou comptable. 3 ans après la publication de leur article, un groupe de chercheurs du centre ZEW pour la recherche économique européenne, établi à Mannheim, en Allemagne, a publié une étude similaire qui évaluait des tâches comme expliquer des produits ou des services et a constaté que seulement 9 % des professions dans 21 pays pouvaient être automatisées. Les gens aiment les chiffres, a affirmé Melanie Arntz, autrice principale de l'étude du ZEW. Les gens pensent toujours que le chiffre doit être solide d'une manière ou d'une autre, parce que c'est un chiffre. Mais les chiffres peuvent vraiment être très trompeurs, selon Melanie Arntz. Dans certains scénarios, l'intelligence artificielle a essentiellement créé un outil et non un remplacement complet de l'emploi. Vous êtes maintenant un terrassier qui peut utiliser une excavatrice au lieu d'une pelle. Ou une infirmière praticienne ayant accès à de meilleures informations pour diagnostiquer un patient. Il est possible que vous deviez facturer plus cher l'heure, car vous obtiendrez beaucoup plus de résultats. Dans d'autres cas, la technologie remplace votre travail au lieu de le compléter. Ou encore, elle transforme votre travail qui exige des compétences particulières en un travail qui n'en exige pas. Il est peu probable que cela se passe bien pour vous. Une sonnette d'alarme. Même si un emploi devient complètement automatisé, le sort des travailleurs déplacés dépendra de la manière dont les entreprises décideront d'utiliser la technologie pour de nouveaux types de travail, en particulier ceux dont nous ne pouvons pas encore imaginer, a expliqué Darren Acemoglu, professeur au MIT et auteur de « Power and Progress, Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity ». Ces choix porteront notamment sur l'automatisation complète du travail ou sur l'utilisation de la technologie pour accroître l'expertise humaine. Il a déclaré que les chiffres apparemment effrayants, prédisant le nombre d'emplois que l'IA pourrait supprimer, même si l'on ne sait pas exactement comment, étaient une sonnette d'alarme. Il pense que les gens pourraient prendre une meilleure direction, mais il n'est pas optimiste. Il ne pense pas que nous soyons sur une voie pro-humaine. Toutes les estimations concernant la quantité de travail que l'IA pourrait prendre en charge dépendent fortement des humains. Les chercheurs qui font des hypothèses sur ce que la technologie peut faire. Frey et Osborne ont invité des experts à un atelier pour évaluer la probabilité d'automatisation des professions. Les études plus récentes s'appuient sur des informations telles qu'une base de données recensant les capacités de l'IA créée par l'Electronic Frontier Foundation, un groupe à but non lucratif de défense des droits numériques. Elle s'appuie également sur des travailleurs utilisant des plateformes telles que Crowdflower, où les gens accomplissent de petites tâches en échange d'argent. Les travailleurs évaluent les tâches en fonction de facteurs qui les prédisposent à l'automatisation. Par exemple, si la tolérance à l'erreur est élevée, il s'agit d'un meilleur candidat à l'automatisation pour une technologie comme ChatGPT. Les chiffres exacts ne sont pas la question, affirment de nombreux chercheurs impliqués dans ce type d'analyse. Je décrirai notre méthodologie comme étant presque certainement erronée, mais, espérons-le, pointant dans la bonne direction, a déclaré Michael Shui, expert en intelligence artificielle chez McKinsey, qui a été l'un des auteurs d'un livre blanc de 2017 suggérant qu'environ la moitié du travail et 5 % des professions pourraient être automatisées. Ce que les données décrivent est, à certains égards, plus banal qu'on ne le pense souvent. De grands changements sont à venir et il vaut la peine d'y prêter attention. Cet article a été publié à l'origine dans The New York Times. C'était « L'intelligence artificielle va changer le travail, mais comment? » Un texte de Sarah Kessler, paru le 13 juin 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visivoire.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.